Le team est 97, quatrième cours.
Connaissance immédiate ou bien une connaissance seconde et réflexive à partir de la connaissance de ce qui n'est pas nous. Avons-nous un accès direct à l'intériorité de notre je suis spirituel ou bien y sommes-nous seulement renvoyés à partir de notre connaissance des réalités extérieures à nous, qui nous vient par les sens, ou alors y a-t-il une perception sensible de soi qui conduit directement au je suis? Je vois très bien, elle n'est pas réflexive. Primo cadit in intellectus ens. Bon. Comme le ceci est. Et ce que j'avais dit très rapidement, mais c'est important de mettre en parallèle ces deux expériences. Ceci est. Je suis. Notre exister, notre être. Nous le saisissons de l'intérieur. C'est notre être spirituel, c'est notre intelligence éveillée à la réalité. Et la réalité première, c'est nous, notre unité d'être implique le point de vue spirituel de l'âme et du corps. Le je suis implique l'âme et le corps. Pour bien comprendre le réalisme du je suis, mon corps fait partie du je suis. Et mon corps n'est pas seulement j'ai un corps. Comme nous disons facilement, j'ai un corps, je suis malheureux, j'ai un corps. Si j'étais pur esprit, ça c'est Platon. Aristote, c'est que le corps fait partie de mon être. Substantiellement. Donc le je suis me conduit à découvrir mon âme comme réalité substantielle. Et je crois ça très important pour qu'on saisisse l'être comme au-delà de l'aspect objectif et subjectif. Parce que l'être est à la fois, pour moi, un être spirituel, la capacité de connaître. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas lié dans son être à la matière. Donc j'atteins un être spirituel directement. Évidemment, encore une fois, c'est dans un jugement. C'est le jugement. Oui. Le jugement implique l'appréhension. Ce n'est pas une intuition de l'être. Vous voyez, c'est très proche de ce que Maritain. Et quand je parlais à Maritain, quand même parlait de l'intuition de l'être, il m'a dit, je comprends. C'est parce que sans doute, j'ai connu Bergson très très bien. Avant de connaître Saint Thomas, j'ai connu Bergson. Je relis comme ça en disant l'intuition. Mais au fond, c'est pas juste. L'intuition reste formelle. Et l'intuition ne touche pas l'être. Vous voyez, c'est le jugement qui est plus profond et qui touche l'être. Et je crois que c'est cela que Maritain voulait faire comprendre. Alors il met intuition. Et je n'aime pas beaucoup intuition. Parce que l'intuition conduirait vers quelque chose qui serait trop formel. Mais, tandis qu'au contraire, là, c'est au-dessus de l'aspect formel, de la cupidité. C'est au-dessus, ça. C'est l'être. C'est l'être qui est touché par mon intelligence. Le mot « tingei » d'Aristote, il est touché par... Je sais très bien, quand j'affirme ça, les vieux thomistes sont pas contents. J'avais fait une conférence une fois à l'Angélique, un peu là-dessus. Alors, j'avais hésité de le faire. Mais j'avais connu à Fribourg, en arrivant, un Espagnol dominicain qui avait enseigné à l'université et qui était ensuite recteur à Salamanca. Et j'avais demandé si je pouvais lui poser toute une série de colles. Question. Parce que c'est pas commode de dire que pendant des années, on a mal commenté Thomas d'Aquin. Parce qu'il y a eu tellement de luttes que le point de départ, moi ça m'intéresse toujours beaucoup, le point de départ. Expliquer cette phrase d'Avicenne que Thomas d'Aquin répète tellement. Ce que l'intelligence saisit en premier lieu, ens, ton, l'être, ce qui est. Et ce qui est, pour moi, où est-il le plus proche ? Ben, c'est moi. Je transporte toujours avec moi mon atelier de travail, mon laboratoire métaphysique. Mon laboratoire film métaphysique, c'est moi. cherche à me connaître. C'est pour ça que la philosophie est si intéressante. Vous venez ici pour connaître l'universel, on en a vite fait. Ça, c'est la logique. C'est secondaire. C'est l'être de raison. Comme on dit, comme dit Thomas d'Aquin, l'être de raison qui n'existe que dans mon intelligence à l'état intentionnel. Tandis que je suis, ça n'existe pas seulement à l'état intentionnel. C'est mon être, c'est mon exister, c'est mon acte. Là, ça change tout. Et voyez, si la scolastique avait été plus intelligente, Descartes n'aurait peut-être pas eu toute l'influence qu'il a eue. Parce que dans le cogito de Descartes, on aurait dit « je suis ». Mais quand Descartes dit « cogito ergo sum », tout le monde sait ça en philosophie. Un français, c'est toujours ça. Cogito ergo sum. Il ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Je cogite. Ergo sum. C'est pas suffisant. L'acte d'intelligence, sans mettre ergo, c'est-à-dire sans mettre la démonstration. Je suis. Quand Descartes dit « je pense donc je suis », donc « je suis » est relatif à cogito. « Je suis » s'impose à la connaissance et est antérieur à la connaissance. Avant que je connaisse mon « je suis », j'étais. C'est pas mon « je suis » qui a fait que j'existais. Mon « je suis » touche un être, mon être, qui m'est donné directement. Alors c'est vrai, la connaissance sensible est présente, mais elle est imbibée d'intelligence. Imbibitur, comme disaient les grands scolastiques. J'aime beaucoup ce terme. Imbibitur, traduisez-le. C'est l'éponge remplie d'eau. Mais puis les séparer. On ne sait pas si c'est l'eau qui porte l'éponge ou si c'est l'éponge qui porte l'eau. Parce que ça fait les deux. Quand l'éponge est sèche, vous versez de l'eau dedans. C'est l'éponge qui porte l'eau. Quand l'éponge est complètement mouillée, c'est l'eau qui porte l'éponge. Imbibitur. C'est la distinction objet-sujet est une distinction à partir de l'être. Et l'être est au-dessus. Et l'intelligence est au-dessus. Par deux opérations. Pas par une intuition, mais par deux opérations. L'appréhension, le jugement. C'est, il faut retrouver cette connaissance si merveilleuse que notre intelligence est faite pour ce qui est. Elle est avide de connaître ce qui est. Et ce qui est, pour moi, c'est l'ami et moi. Ça, c'est les sommets. Ce qui est donné immédiatement. Et ensuite, c'est l'exister de Dieu. Mais l'exister de Dieu, ce n'est pas mon exister. L'exister de Dieu, je ne le touche pas immédiatement. Alors, il y a la réalité extérieure n'importe laquelle. La carotte, elle existe. Mais en réalité, l'oiseau, tout ce qui existe dans la réalité, l'univers, bien, je suis. Et le je suis de Dieu. Ce n'est pas pour rien que lorsque Moïse demande à Dieu son nom, Dieu dit je suis. Alors évidemment, quand dit Dieu je suis, il le dit autrement que nous. Mais c'est quand même indicatif. Dieu se présente par le je suis. Et nous nous présentons à nous-mêmes par notre je suis. Bon, je continue. Nous avons vu les trois premières dimensions de la personne. Voyons maintenant ces dimensions moins importantes, mais qui sont de plus en plus proches de notre conditionnement, de notre conditionnement spirituel. Nous avons cette chose très étonnante, cette sagesse seconde, qui est la sagesse de l'intelligence pratique, de l'intelligence se servant de l'amour. L'intelligence est pratique en se servant de l'amour. Et l'intelligence est pratique en se servant de notre imagination. Et l'imagination au très grand sens. L'art. La prudence et l'art font partie de la structure de la personne. Une personne humaine qui n'aurait aucun sens de l'art. Donc, de cette intelligence pratique qui domine la matière, mais qui coopère avec la matière, toutes sortes de matières, le son, qui domine avec qui domine la pierre, le sculpteur. Qui domine le langage, le poète. Qui domine les couleurs, la lumière. La lumière, suprême de l'univers physique. C'est la lumière qui fait l'unité du monde physique. Et l'intellect pratique, par l'imagination, domine la lumière, s'en sert, le peintre. Voyez, c'est ce petit univers et le grand univers dans lequel nous nous trouvons, que l'homme, par son intelligence, peut modifier, transformer. Pour moi, c'est une délicatesse extraordinaire du Créateur. Nous le dirons demain. De mettre l'homme dans cet univers qui n'est pas achevé. Tu aurais pu faire un univers son acte, qui n'est pas la potentialité. L'homme n'aurait qu'une seule chose à faire, c'est s'en servir. L'homme n'aurait pas pu rendre cet univers plus parfait. Je rends la mer plus parfaite en tant qu'artiste, en tant que peintre, je peux la montrer autrement que la plupart des gens la voient. Un œil différent. Je peux cet univers étant imparfait. Il est capable d'être perfectionné. Et l'homme se trouve dans un univers qui peut être perfectionné. Alors, il y a un art qui est la technique. Perfectionner cet univers, être victorieux sur ce que représentent les limites de temps et de lieu. Je domine cette limite terrible du lieu dans lequel je me trouve, et je me trouve loin d'un autre lieu. J'essaierai par tous les moyens de dominer les distances. Dernière découverte, le TGV, dernière application des découvertes. C'est lui. Il dit l'art, l'œuvre d'art, petite fille de Dieu. C'est très beau. Tu aimes bien d'avoir dit petite fille. Hein? Petite fille de Dieu. Et il aime que cette petite fille se ses amis. C'est une œuvre commune de Dieu créateur et de l'homme. C'est une œuvre commune que Dieu aime. Ça fait partie de la personne. L'artiste est une personne qui a ce contact particulier avec lui. Pour lui donner toutes ses dimensions, pour le transformer, pour devancer. Alors ça, c'est dit non plus en tant que philosophe, mais en tant que croyant, pour devancer la résurrection. La liturgie doit être cela, devancer le ciel, faire descendre un peu la lumière du ciel sur la terre. Elle n'est pas toujours comme ça, c'est bien évident, et elle devrait être ça, la liturgie. Elle a un aspect très grand qui, dans le monde d'aujourd'hui, est très important. Parce que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ont beaucoup de peine de comprendre cette sagesse qu'est la prudence. On dégoûte les jeunes de leur responsabilité. Parce que dès qu'ils font quelque chose, on les critique. Or, la prudence, c'est justement, je coopérer avec eux par la prudence. Et en coopérant avec eux, je manifeste mon amour. Puis je domine mes passions. Je domine tout cet aspect multiple et mouvant qui est en moi. Parce qu'on l'a mal représentée, on a mal montré ce qu'elle était, on a montré l'impératif catégorique, fais ceci, donc on est dans un état d'esclavage, alors que la morale vous libère de l'état d'esclavage des passions. C'est magnifique de voir un homme avec force capable de se servir de son irascible. Alors il n'a peur de rien. C'est splendide de voir un artiste qui domine la matière. Vous voyez, assez extraordinaire de comprendre ces deux grandes dominations de l'homme sur l'univers physique et le sien aussi, la danse. Oh. éthique tout son sens. Rigueur, qui pendant toute sa vie a cherché comment redonner à l'homme toutes ses dimensions, et entre autres cette dimension morale, éthique. Comprend le rôle de l'amour d'amitié qui finalise les vertus morales. L'amitié doit nous faire comprendre comment la prudence est une certaine sagesse qui ordonne tout dans notre monde passionnel en vue de l'amour, en vue d'être capable d'aimer, en vue d'être capable de recevoir l'amour d'un autre. Pour recevoir l'amour d'un autre, il faut être pauvre. Il faut accepter de laisser l'autre prendre ses initiatives et être réceptif. La vertu de tempérance, le concupiscible, quand il est transformé par la vertu, met en nous une capacité merveilleuse de recevoir l'amour. Parce qu'on est en connaturalité avec lui. Et on est réceptif. La réceptivité est quelque chose de plus grand sous un certain aspect que l'irascible qui est la force. Ce qui est merveilleux, c'est quand les deux s'unissent pour aimer. Voyez, je crois qu'il faut bien comprendre que l'art et la prudence, et j'aime de les prendre ensemble, parce qu'on peut les ordonner différemment. Normalement, la prudence qui règne sur notre monde de passion passe avant l'art. Et l'art passe avant la prudence au point de vue de la manifestation. Et comme dans notre monde d'aujourd'hui, la manifestation est très importante, on comprend comment l'art a une très grande importance pour éduquer la personne. Elle fait partie de ce développement en nous, de ce qu'est la personne. Et la prudence, on comprend très bien. Là, quelquefois, on dirait que c'est quelque chose de secondaire. Bien non, c'est essentiel à la personne humaine. Parce que par notre corps, nous vivons dans un univers qui est inachevé, qui est très souvent non parfaitement ordonné. Alors on peut à la fois, par une sorte d'exaltation, de domination, le détruire. L'homme peut abîmer terriblement la terre, notre univers. Il ne peut pas abîmer beaucoup la lune, parce qu'elle lui échappe. Il ne peut pas. Donc on ne sait pas. Selon l'Apocalypse, d'ailleurs, des dégringolades assez affolantes, ce qui prouve qu'il a délogé la Lune, qui a très peur, la Lune. Elle est très timide, la Lune. Timidité énorme. Alors, quand il dérangeait, les colères de la Lune. Le soleil n'a pas de danger. Il sait qu'il est royal. C'est vrai, tout ce monde, les étoiles et tout ça, c'est pour l'homme. C'est pour la grandeur de ce monde, de l'univers. Alors, c'est vrai qu'il échappe à la prudence. Il échappe à notre art, ce monde céleste. Mais il intéresse à le regard contemplatif du philosophe. Parce que je ne peux avoir qu'une connaissance contemplative des étoiles, des galaxies. Je ne peux pas les changer. Je ne peux pas les modifier. Mais elles ont quelque chose à me dire. Restons dans la vérité. Bien obligé de reconnaître qu'il n'y a rien d'inutile dans le monde. Et donc, le philosophe va essayer de comprendre l'unité de cet univers, la lumière, et voir comment la lumière qui unifie le monde. Physique au monde spirituel. Elle m'aide à comprendre ce que c'est que la connaissance analogique. Je passe d'un monde lumineux, sensible, à un monde lumineux, intérieur, la lumière. Et je dis que ma connaissance dans la recherche de la vérité est lumière. Elle doit donc arriver à faire elle aussi l'unité des esprits. Enfin, dernier aspect de la personne, le corps. Sur le corps. Parmi toutes les réalités physiques et biologiques, le corps humain est le corps le plus parfait. Et le corps humain le plus parfait est lui-même pas parfait. C'est pour ça qu'on doit aider l'enfant, aider l'homme à tous les niveaux. Le corps manifeste. Vous voyez, il fait appel à l'art. Il manifeste à sa manière. D'une manière très étonnante, parce que c'est une manifestation substantielle, radicale, essentielle. Je dis bien essentielle. Je vous le disais, le corps existe. Il est animé par l'âme. Il existe une existence humaine. Les yeux, le regard, humain. Et parmi toutes les réalités physiques, la réalité la plus parfaite, la plus belle, et en même temps, il est totalement relatif. L'imagination est liée à notre corps d'une manière étonnante, est liée à nos souvenirs, est liée à notre réminiscence. Le corps permet le contact. Sensible grâce à la connaissance sensible. Et il apporte un renouveau constant à notre imagination, à notre connaissance intellectuelle. Voyez, voilà les six grandes dimensions. Et j'ai essayé de les ordonner en voyant ce qui est le plus proche de ma finalité. La personne humaine assume le fondement le plus matériel, le corps, et applique l'intelligence de ma fin. C'est par la finalité que je peux ordonner les différents moments de la noblesse de ma personne humaine. Et comme l'univers est imparfait, mon corps est imparfait, mon esprit est imparfait. L'œuvre la plus magnifique que nous pouvons tous faire, c'est une œuvre que nous portons en nous. C'est notre propre personne humaine. Nous avons reçu une première éducation et ensuite nous nous éduquons nous-mêmes. À notre sens artistique. Nous éduquons nous-mêmes grâce à cette soif de vérité où nous pouvons aller toujours plus loin.
le 11 mai 97, premier cours.
Dernier jour de la session consacrée à la relation qui existe entre notre intelligence et le mystère de Dieu. Notre intelligence est-elle faite pour connaître Dieu ? Notre intelligence est-elle faite pour connaître notre univers en premier lieu ? C'est une question qu'il faut se poser, une question à laquelle, je dirais, toute notre vie, nous devons, c'est l'examen de conscience, doit connaître l'âme s'il est intelligent. Ce n'est pas pour connaître premièrement ce qu'est l'intelligence, non. L'intelligence s'éclaire elle-même. C'est pour affirmer que nous sommes faits pour la vision béatifique, que notre sauveur, la foi chrétienne, aussi, en second lieu, que nous pouvons, par nous-mêmes, c'est-à-dire que la philosophie, le développement de l'intelligence humaine, peut, par elle-même, découvrir l'existence de Dieu. Autrement dit, découvrir l'existence de Dieu est une découverte qui relève de l'homme comme homme, un homme qui ne découvre pas l'existence de Dieu ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il est comme homme. On peut s'arrêter en route, trop difficile. C'est vrai. Vous voyez, il y a deux affirmations du croyant. Ça, c'est... notre monde aujourd'hui et parmi les théologiens d'aujourd'hui. Peut-être le péché, je dis bien le péché dominant, parce que c'est contraire à toute la tradition. Tous les pères de l'Église, Dieu existe, et l'affirmation, mais quelle est la nature de Dieu, ce qu'est Dieu, le Theisti et le Atheisti, quid sit et ansit en latin. De la théologie moderne. Quand je pense à un petit livre qui a paru où les éditions du CERF dominicaines à Paris ont fait un petit colloque il y a quelques années, j'étais encore à Fribourg, pour savoir qu'est-ce qu'il y a actuellement de possibilité pour montrer que l'intelligence humaine est faite et est capable d'affirmer que Dieu existe. Ils ont dit qu'il n'y a qu'une seule preuve qui tient, celle de Kant, qui justement ne tient pas la route. Donc, on va voir. Mais je crois que là, on touche un problème, il faut le savoir, pour la sensibilité moderne, théologique, être le plus parfait qui existe. Le philosophe doit se poser la question. Ou, au contraire, la personne humaine est l'être le plus parfait que nous pouvons expérimenter directement. Et la personne humaine vu dans la lumière de l'être, et je dis bien vu dans la lumière de l'être, elle crie métaphysiquement, donc c'est silencieux, elle crie métaphysiquement, il existe un être dont je dépends radicalement, qui est l'être premier, mon créateur. Un très grand obstacle, là, je crois, qui a été de mal comprendre Thomas d'Aquin dans la scolastique, et spécialement cette fameuse question, je ne veux pas y entrer trop parce que ce serait trop long, cette fameuse question dans la somme théologique de Thomas d'Aquin. théologique de saint Thomas est un livre de théologie et non pas de philosophie. Je crois constamment l'erreur a été ça. Et on a mal compris les cinq voies de Thomas d'Aquin. Saint Thomas donne cinq voies. Ce qui est sûr, c'est que Thomas d'Aquin, durant toute sa vie, s'est posé le problème: comment l'intelligence humaine remonte-t-elle et peut-elle remonter jusqu'à Dieu? C'était la question du petit jeune Thomas d'Aquin. Quand il frappe chez les cisterciens, qu'est-ce que c'est que Dieu? Voilà sa grande question. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Mon intelligence peut-elle atteindre Dieu? Vous comprenez que ma vie humaine est toute différente si je sais que Dieu existe. D'une connaissance philosophique certaine, je sais que Dieu existe. Au contraire, si je peux affirmer en toute vérité, Dieu n'existe pas. Parole du psaume Incipiens dixit in corde suo non est Deus. Cette parole que tous les théologiens ont repris, Incipiens, l'insensé, celui qui a un peu perdu la tête, l'insensé, dit dans son cœur: Dieu n'existe pas. Tous ceux qui nient Dieu sont des insensés. Donc je ne leur parle pas, pas du tout. Au contraire, il faut être d'autant plus attentif à ceux qui affirment, ayant cherché pendant toute leur vie quelquefois, de comprendre qui est Dieu et si Dieu existe. Parce qu'au fond, c'est la plus grande d'être convaincu que Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, à partir de Feuerbach, on considère que l'intelligence affirme nécessairement que Dieu n'existe pas. Il y a bien des retardataires dont nous sommes, il y a bien des retardataires qui s'attachent à tout prix tradition. Dieu existe. On considère que l'intelligence n'est libre que si on affirme que Dieu n'existe pas. Et au fond, psychologiquement, c'est là le grand problème. C'est qu'on considère qu'affirmer l'existence de Dieu, c'est nécessairement mettre l'intelligence dans un état somme. Il veut faire une maternelle. C'est-à-dire une science qui n'a pas son autonomie en elle-même et par elle-même, parce qu'elle dépend de la foi. Et que la foi, au point de vue connaissance humaine, est une connaissance qui est très imparfaite, parce qu'elle n'a pas l'évidence. Elle a une certitude sans avoir l'évidence. Ce qui, pour l'intelligence humaine, est une situation très délicate. La foi me donne des certitudes. Elle ne me donne aucune évidence. Alors Thomas d'Aquin, qui sait, qui l'innove, en voulant montrer que la théologie est une science subalternée à la connaissance des saints, subalternée à la vision béatifique. Je suis fait pour voir Dieu, puisque je suis croyant. Et par le fait même, mon intelligence, mise au service de ma foi, peut arriver à des certitudes qui viennent de la foi. Et je peux réfléchir d'une manière intelligente sur le mystère de la parole de Dieu, sur le mystère de ma foi, et comprendre que j'ai là des données absolument certaines qui demeurent non pas dans l'évidence, mais qui a une évidence scientifique très particulière à cette réflexion qui est une attente de la vision béatifique. Alors Thomas d'Aquin, au début de sa somme, veut regarder quelle est la relation qui existe entre l'intelligence et l'existence de Dieu. C'est une position critique, de réflexion critique. Est-ce que l'intelligence peut atteindre Dieu? Et c'est tout à fait normal que Thomas d'Aquin fasse ça au début de sa somme, parce que, de fait, la somme théologique de Thomas d'Aquin, c'est préciser comment l'intelligence, dans son état de plus grande perfection, est capable d'expliciter ce que la parole de Dieu me dit, ce que la révélation me dit, ce que la tradition chrétienne me dit. Alors comment il y a une coopération possible entre l'intelligence humaine par rapport à la foi? Est-ce qu'il y a un abîme entre la foi et l'intelligence de l'homme? Soi-disant par respect pour la foi. Ou y a-t-il une possibilité d'une coopération? Donc, voyez, le souci de saint Thomas, c'est de montrer que mon intelligence humaine peut recevoir la foi et demeurer une intelligence qui cherche la vérité. Entre mon intelligence et le mystère de Dieu, il y a un fil conducteur. Il y a un lien qui permet Thomas veut montrer, c'est que la théologie est possible quelqu'un qui sait qu'il innove au point de vue théologique, qu'il est bien dans le sens de toute la tradition, mais qu'il fait un pas en avant. Il apporte une précision nouvelle. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir ça comme ça. Mais le danger, c'est qu'on a pris les voix de Thomas d'Aquin comme si c'était des voix philosophiques pour atteindre Dieu. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est un jugement de sagesse. Je sais que Dieu existe. Je connais mon intelligence. Et je veux affronter les deux. C'est ça, le point de vue critique. C'est sûr que les deux problèmes se tiennent. Et l'effort de Thomas d'Aquin avant la Somme, donc le premier Thomas d'Aquin, qui a été disciple de Pierre Lombard, c'est-à-dire qui a commenté Pierre Lombard, et qui cherchait, et qui ne se satisfaisait plus d'Avicenne. Thomas d'Aquin montre avant, dans un petit livre, DNT Essentia. DNT Essentia. Que c'est seulement par l'être en acte, l'exister, que l'intelligence humaine peut atteindre Dieu. Et ceci est capital. Étienne Gilson avait été émerveillé par ce texte. À tel point qu'il a dit, c'est là où il y a vraiment un argument pour montrer l'existence de Dieu. Alors que c'est pas tout à fait ça. Le DNT Essentia est encore un livre critique où saint Thomas montre que en dehors de l'essai, oui, l'essai, pour saint Thomas, il y a ens, id quod est. Id quod est. Ce qui est. Ce qui est. Et esse, ce par quoi. Ce qui est. Et. Oui, parce que c'est du latin, il faut le traduire en français. Hein. Parce que nous ne pensons pas en latin, du moins je crois pas. La génération moderne recommence à penser en latin. Mais ceux de la génération entre deux pensent pas en latin. Non. Alors, ens, traduisez, et saint Thomas le traduit comme ça, id quod est, ce qui est. Et est-ce ce par quoi, ce qui est, ce par quoi, c'est ce qui actue, est-ce, est-ce, parce qu'il peut y avoir un être possible, c'est l'intelligibilité propre d'une nature qui n'existe pas nécessairement, et qui peut exister. Qui est pensé par Dieu de toute éternité. Dieu de toute éternité a pensé à l'homme. Et puis Dieu a créé. Et quand Dieu crée, il touche l'essai. Et c'est par là que saint Thomas montre le lien. C'est l'être en acte, ce par quoi, ce qui est. Donc devient une réalité propre qui existe. C'est l'essai. Et c'est cela qui fait le lien entre nature de l'homme que je dirais Dieu existe nécessairement. Et c'est vrai que c'est très tentant quand vous regardez comment l'embryon se développe. Je prends ça exprès puisque c'est quand même une découverte pour nous. Thomas d'Aquin ne pouvait pas dire comment l'embryon, c'est admirable. C'est impossible de dire que ça, c'est le hasard. À partir de ce moment-là, c'est plus le hasard, parce que ça se répète tout le temps. J'ai été dans cet état-là, vous avez été dans l'état embryonnaire, moi aussi. Puis on est maintenant comme ça, on est une personne. Alors qu'au point de départ, mais c'est impossible que ça arrive par hasard. Impossible. Alors, je devrais prendre ça en disant, mais oui, ça, c'est, ça exige nécessairement une sagesse qui a pensé ça. Ça, c'est très intéressant pour ébranler les gens. Dire, oui, mais c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. L'embryon, c'est merveilleux. Ouais. J'ai envie de reprendre toutes les preuves de l'existence de Dieu par l'embryon. Parce que c'est quand même une sagesse qui a pensé à ça. Parce que c'est pas vous qui avez vraiment sorti de l'embryon, quoi. Quand vous étiez embryon, vous connaissez bien ce que vous étiez. Rappelez bien. Parce que vous étiez la musique dans laquelle l'embryon se trouve. Puisque c'est tout ça qu'on est réfléchi. On va remonter tout. Ça me montre qu'il y a une intelligence première. Ça oui. Au-delà du hasard. Le hasard n'explique rien. Et tout le temps, il y a des embryons. Et une sagesse qui est là présente. Et cet embryon a été pensé. Merveilleusement. C'est pas par l'embryon. C'est par l'existence de l'embryon. Il existe. Donc par la métaphysique. C'est l'être laissé. L'acte d'être. Laissé. Que je peux montrer. Il y a non seulement une intelligence qui a pensé l'embryon, mais qu'il y a un être premier qui a créé cet embryon. Non pas comme embryon, puisqu'il y a le concours de l'homme et de la femme pour former ce composé. Mais ce composé existe. Si le Saint-Père le tient dans son encyclique, il souligne au point de vue philosophique, je ne sais pas exactement à quel moment l'âme est créée. Il le dit. Mais ce que je peux affirmer, c'est que l'embryon est un être humain, tout entier ordonné à l'âme. Le Créateur. L'acte de création de Dieu, c'est de créer un être, pas de créer une idée. Chacun d'entre nous, nous avons créé des idées. C'est pas créé, c'est dans ma tête. Nous avons beaucoup de choses dans notre tête. Et quelquefois, nous croyons que nous sommes des créateurs. On dit créer pour l'artiste, mais l'artiste ne crée pas. Il réalise de nouvelles relations formelles. Et c'est ce qui se passe dans l'embryon. Ce sont des relations successives qui s'imposent et qui font qu'on a un être humain. Au sens tout à fait rigoureux, l'acte créateur de Dieu touche l'essai. Touche une réalité existante. C'est donc trop mal traduit. Alors on peut le prendre pas parfaitement. Il faudrait qu'on le reprenne et le traduire parfaitement. Et puis mettre ça comme l'intuition première de Thomas d'Aquin pour remonter jusqu'à Dieu. Tandis que dans la Somme, ce n'est pas le souci de Thomas d'Aquin de montrer comment l'intelligence peut découvrir Dieu. Non, c'est dans un aspect critique. Il montre que l'intelligence humaine ne peut découvrir l'existence d'un être premier dont elle n'a pas l'expérience directe, mais elle a l'expérience de l'effet propre de l'être premier. Et donc, c'est par la causalité que Thomas d'Aquin montre qu'il faut découvrir l'existence de Dieu. Donc, je ne peux découvrir l'existence de Dieu que par une démonstration qui part de l'effet propre pour remonter jusqu'à la cause. Alors, on peut, par cette démonstration dite a priori, alors là, Thomas d'Aquin se sert d'Aristote directement, où Aristote distingue deux types de démonstrations. La démonstration a priori, la démonstration a posteriori. Ça, c'est de la logique. Et c'est nécessaire de bien comprendre qu'une démonstration mathématique est toujours a priori, par la définition. La démonstration a posteriori se fait à partir d'une réalité existante, singulière. À partir de cette réalité existante singulière, je dis que cette réalité est limitée dans son être. Donc, son existence est participée. Donc, son existence est causée. Mais c'est assez simple à saisir. J'ai donc la possibilité, chacun d'entre nous, nous avons donc la possibilité tous, si on a l'intelligence en acte, à partir de l'homme qui existe. J'existe, je suis. Ce « je suis » appelle l'existence d'un créateur. Pourquoi ? Parce que le « je suis » est limité dans son être. C'est sûr, limité dans son être. J'existe, moi, vous existez. Donc mon exister n'est pas tout l'exister. Hein? Ce serait gros de dire j'existe, je suis l'exister de tout l'univers, de tous les hommes. Il n'existe que par moi. Ça, on retrouve ça dans les asiles. Eh bien, cette fameuse parole qui est vraie, qui est authentique, je me souviens à Fribourg, c'était réel. Vous allez prendre des visites parce que j'allais de temps en temps, dans la miséricorde, soutenir des pauvres gens qui étaient enfermés là. Alors, on avait un brave monsieur qui vous disait tout de suite, oh, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dira qu'il est Dieu le Père. Mais pas du tout, je sais bien que c'est faux, parce que moi je suis Dieu le Fils. Alors je connais mon Père. Alors on se renvoie là-bas, vous voyez. C'est pas comme ça du tout qu'on peut découvrir l'existence de Dieu. On sait bien que notre existence est limitée. Je respecte l'existence de mon ami. Vous voyez, comme l'amitié est une chose précieuse, elle me rend humble. Parce que je respecte l'existence de mon ami autant que la mienne. Ça, c'est fameux. Je suis capable de m'effacer devant mon ami. Et si je l'aime vraiment, j'aime bien que mon ami passe devant moi. Tant que je n'aime pas qu'un homme passe devant moi, il n'est pas mon ami. L'amitié est merveilleuse pour ça. J'écoute plus volontiers mon ami que moi-même. Ça, c'est fameux. Et donc, je vois tout de suite que mon exister n'est pas l'exister. Quand je dis « je suis », ce « je suis » ne peut pas avoir la même signification que Dieu dit « Je suis celui qui est ». Les deux « Je suis ». Ça, tout le monde peut comprendre ça, je crois. Puisqu'on est ensemble, on se respecte quand même. N'allez pas dire « Ah, il n'y a que moi qui existe ». Vous, minoresse, vous êtes des pauvres types, vous n'y connaissez rien. Non, je sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui existent comme moi. Je ne suis donc pas le premier dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre de l'être, il y en a beaucoup. Donc aucun homme n'est premier. Aucune personne humaine n'est première. Par le fait même qu'elle est limitée dans son être, et qu'elle n'est pas l'être, son être est participé. Nous existons tous, mais nous n'existons pas. Comme on aurait envie de dire, regardez-moi, vous comprendrez l'être. Vous pouvez pas dire ça, hein. Vous pouvez pas dire, regardez-moi, vous verrez l'être. Non, regardez-moi. Que je connaissais très bien à Paris, qui aimait beaucoup la philo, passer votre doctorat. Oh non, j'en ai assez. Je dis bon, c'est dommage. Je vais tout de suite gagner de l'argent. Vous voyez, l'efficience qui lutte contre la finalité. Je dis, vous êtes intelligent, vous devriez passer votre doctorat. Non, je le revois 2 ans après. Je dis, je me suis remis, j'ai affaire à mon doctorat. Je dis, tiens, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir une anguille sous roche. Ah oui, je suis fiancé. Ah ben, je dis, oh, je comprends alors. Ma fiancée me dit, mais tu es imbécile de ne pas perdre ton doctorat, quoi. Donc il s'est mis à retravailler à cause de l'amour qu'il avait pour sa fiancée. Vous voyez, la causalité finale. Moi, je ne jouais pour lui que le rôle de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qu'il admirait. Gros exemplaire, pas la finalité. Il m'aimait, mais c'était pas suffisant. Il fallait un amour qui reprenne tout radicalement. Et c'est ça, l'amour du fiancé. Je lui dis, faites-le quand vous êtes fiancé, pas quand vous êtes marié. Et il est très bien compris. Il a très bien saisi. Parce que quand il est marié, on possède. Ah! Quand on n'est pas marié, on cherche, on tend vers, on veut posséder, on veut conquérir son cœur. Et alors là, causalité finale. Point de vue très fort. Et alors la causalité finale, c'est elle qui fait tout marcher. Dieu nous a créés, non pas du tout parce que c'était nécessaire pour lui qu'il nous a créés, mais si Dieu existe, il nous a créés par pur amour. Donc, ce n'est que par la causalité finale qu'on peut découvrir Dieu. C'est du reste simple. Vous avez vu, je crois, que la philosophie cherche ce qui est premier dans l'ordre de l'être, l'analyse. Substance, causalité formelle. Acte, causalité finale. Tout ce qui est limité est en puissance vers l'acte. La limite vient de la potentialité. Et la potentialité est ordonnée à l'acte. Et donc, si mon être est limité, je suis un être qui, métaphysiquement parlant, est tout entier tourné vers Dieu, qui est l'acte, parce qu'il est le premier. Or, cet être fini que je suis, il existe. Il est en acte et il est limité. La limite ne s'explique pas par elle-même. Je suis donc un être dépendant, causé au plus intime de mon être par quelqu'un qui est premier. Vous voyez, on est resté paresseux. Il faut vous reconnaître. En prenant les 5 fois de Thomas d'Aquin, on est paresseux. On a dit, saint Thomas nous a prouvé l'épreuve de Dieu. On a répété ses preuves. Indéfiniment. C'est très riche, l'épreuve de saint Thomas d'Aquin. C'est très, très riche. Mais ce n'est pas la découverte de l'existence de l'être premier. C'est chercher le lien d'intelligibilité qui existe entre mon intelligence et l'affirmation Dieu existe. Et de voir que mon intelligence est capable d'affirmer que Dieu existe. Mais voir que mon intelligence est capable d'affirmer que Dieu existe, cela n'est pas la même chose de dire Dieu existe. Ce sont deux affirmations.